décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Quelles relations entretiennent la FIFA et les fédérations africaines de football? C'est le thème de notre grand rendez-vous de ce soir. Mais d'abord, décryptage. Notre invité analyse les frappes de l'armée française dans un village du centre du Mali qui aurait fait des victimes civiles. Restez avec nous.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Ornella Modéran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de programme Sahel à l'ISS de Bamako, l'Institut d'études de sécurité. Une frappe de l'armée française dimanche dans le village de Bonti, dans le centre du Mali, aurait tué plusieurs civils et blessé d'autres. Certains témoins rapportent que des victimes participaient à un mariage dans le village, ce que dément l'état-major français. Que savez-vous de cette affaire ?
Eh bien, je pense que vous venez d'indiquer l'essentiel des faits. Effectivement, une frappe aérienne a eu lieu sur ce village il y a quelques jours. De sources locales, on apprend qu'il y aurait environ 18 civils qui auraient trouvé la mort dans ce bombardement alors qu'ils participaient à un mariage. De leur côté, les forces françaises nient cette version, indiquant avoir effectuer des frappes ciblées visant et touchant plusieurs dizaines de djihadistes dans la zone.
Mais que vous révèlent vos propres recoupements ?
Nous n'avons pas de propres enquêtes. Donc, moi, je vous donne les faits tels qu'ils sont publiquement disponibles. Actuellement, il est très difficile d'avoir d'autres éléments que ceux qui sont communiqués par un camp ou par l'autre, et notamment par voie de presse. Les autorités maliennes ne se sont pas prononcées jusqu'ici, indiquant simplement qu'une enquête avait été ouverte, ce qui en soi est déjà quelque peu inquiétant, puisque cela suggérerait que les forces maliennes n'étaient pas forcément informées de la frappe menée par l'armée française, ou alors qu'elles ne souhaitent pas parler immédiatement pour des raisons qui leur sont propres.
Comment appréciez-vous la collaboration entre les forces étrangères et notamment donc Barkhane et les armées nationales des pays du Sahel ?
Cette collaboration est effective à en entendre les différents protagonistes, notamment les forces nationales des différents pays. Cela dit, il est difficile de la constater sur le terrain. La présence de Barkhane est très forte et très visible dans la partie nord du Mali. Elle s'étend également aux pays avoisinants, mais est sans doute moins visible et moins perceptible.
L'opération Barkhane est souvent accusée de fonctionner en électron libre dans le Sahel. Quel est votre constat ?
Alors là, je préfère pas m'engager sur cette pente-là.
L'armée française a-t-elle l'habitude de reconnaître d'éventuelles bavures dans le Sahel, puisque en 2017, elle avait été accusée de bavures aussi après la mort d'un enfant, toujours au Mali?
Alors, ça n'est pas la première fois, effectivement, que certains actes posés ou qui auraient été posés par l'armée française posent questions. En général, la posture qui est prise est plutôt une posture défensive. C'est un peu ce qu'on constate à nouveau dans le cas présent. Cela dit, il sera important que la vérité puisse être faite, puisqu'on parle quand même de plusieurs personnes qui auraient perdu la vie dans ces frappes aériennes sur la localité de Bounti. Et donc, il y a tout de même un élément de confiance qui est en cause. Là, si on n'arrive pas à savoir exactement et avoir une version officielle crédible sur ce qui s'est passé, la confiance qui existe entre les populations locales dans cette zone très sensible et les forces maliennes d'une part, mais aussi les forces étrangères d'autre part, surtout, risquent forcément d'être remises en cause.
Vous souhaitez que la vérité soit établie, dites-vous. Quelle est l'entité qui pourrait effectivement, d'après vous, mener une enquête objective, indépendante, pour que cette vérité soit connue ?
Alors, avant d'en arriver à la proposition d'une enquête objective, indépendante par des entités externes, je pense que la première chose est d'entendre ce que les autorités maliennes ont à dire. Elles restent jusqu'à présent très, très discrètes sur la question, mais leur prise...
Vous venez de dire que l'armée malienne semble ne pas être au courant même des opérations de l'armée française.
Le principe de l'investigation, c'est justement de découvrir ce dont on n'est pas au courant. Donc, moi, ce que j'essaye de dire, c'est tout simplement que ces investigations, si elles doivent avoir lieu, doivent en premier lieu être menées par les autorités maliennes. Et si effectivement ce qui en ressort n'est pas convaincant ou bien manque de consistance, là, il sera temps d'envisager d'autres mécanismes, éventuellement des mécanismes accompagnés par certains partenaires du Mali.
Quel est l'état de la sécurité dans le Sahel aujourd'hui ?
La situation, malheureusement, n'est pas bonne. Le Sahel continue à être exposé à des risques sécuritaires et à une crise sécuritaire importante. On déplore également une relativement faible présence de l'État dans diverses zones reculées, notamment les zones frontalières. Et malheureusement, les événements des premiers jours de cette nouvelle année 2021, au Niger le 2 janvier, ainsi que ces frappes aériennes dans le cercle de Douanza au Mali, nous montrent bien que malheureusement, l'ère des massacres de civils qui s'est ouverte il y a maintenant deux ou trois ans n'est pas encore derrière nous.
Ornella Moderan, merci beaucoup.
Je vous remercie, c'est moi.
Chef de programme Sahel à l'ISS, l'Institut d'études de sécurité à Bamako, au Mali.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue à vous et merci d'être avec nous alors qu'il est 18h, bientôt 15 à Paris, 17h15 à Abidjan. Bienvenue pour ce grand rendez-vous. Pour la seconde fois en à peine un mois, la FIFA a saisi le TAS, le tribunal arbitral du sport, pour contester les décisions de la FIFA. Et nos invités pour en débattre ce soir sont Joseph Yao Alla, directeur de cabinet du ministre ivoirien des sports. Bonsoir monsieur Alla.
Bonsoir, madame.
Bienvenue et merci d'être avec nous à Abidjan. Yassine Mar, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football, est à Dakar. Monsieur Mar, bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
Nous rejoindra, on l'espère, dans un instant, Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but camerounais, en ligne de Gambé au Cameroun. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à entrer en contact avec lui. Mais nous a rejoint Hakim Djelouat, journaliste sportif à Africa Radio ici et présentateur de l'équipe Tout Feu, Tout Foot. Bonsoir, Hakim.
Bonsoir Liliane et bonsoir à tout le plateau.
Merci et je précise que au niveau de la Fédération ivoirienne de football, Sam Etiassé, que nous avons contacté, le directeur exécutif de la FIFA, a décliné notre invitation affirmant qu'il serait en entretien lors de l'émission pour la préparation du CHAN. Et quant à la FIFA, elle n'a tout simplement pas donné suite à nos divers emails. Je commence avec vous, monsieur Yao Alla. Le ministère ivoirien est-il en phase ou non avec la fédération concernant les procédures introduites par la Fédération ivoirienne de football devant le TAS, d'abord pour contester la suspension en août dernier du processus d'élection à la présidence de la FIFA et puis fin décembre dernier concernant la mise sous tutelle de la fédération par la FIFA.
Merci madame de nous donner l'opportunité de prononcer sur ce sujet. Et je crois que la Fédération ivoirienne de football est affiliée à la FIFA. Et c'est un problème qui oppose une fédération à la fêtière et qui est en train de se régler selon les normes et les règles qui régissent cette institution. Et donc la fédération a informé le ministère de la saisie du tribunal arbitral des sports à partir de ce que la réglementation met en place. Et donc, il revient à la fédération de gérer cet aspect du problème avec la fêtière. Et naturellement, le ministère des Sports ne se mêle pas de cet aspect-là.
Vous ne vous mêlez pas. Est-ce que cela veut dire que vous restez à équidistance des deux parties? Vous observez cette querelle qui oppose la FIFA à la FIFA depuis 6 mois? Vous n'avez aucun rôle à jouer d'un côté comme de l'autre?
Non, c'est tout ce qui concerne le football ivoirien parce que ce sont les Ivoiriens et le ministère des Sports et de la Tutelle, naturellement, nous concerne. Mais je dis le dossier technique qui concerne la fédération sportive, la gestion de la fédération, l'organisation de la fédération et les relations avec sa tutelle, c'est du domaine des associations. Et donc, ça se gère entre les associations de manière autonome. La fédération, naturellement, nous rend compte de l'évolution de la situation.
Et justement, à ce propos, Monsieur Yao Allah, peut-on brièvement savoir où en sont les deux procédures devant le TAS?
Lesquelles procédures? Justement, c'est ce que j'ai dit.
Oui, puisque vous venez de dire que la fédération vous rend compte.
C'est la fédération nationale qui a saisi le TAS pour exprimer son mécontentement par rapport à une situation donnée. Et donc, c'est la fédération qui suit cette procédure.
Et vous rend compte?
Oui, jusqu'à présent.
Disiez-vous, mais où en est justement, où en sont ces procédures?
La fédération pourrait peut-être justifier un peu plus l'évolution de cette procédure, puisque nous n'avons pas engagé cela. Et jusqu'à preuve du contraire, la fédération ne nous a pas dit qu'il y a eu un retour du TAS. Donc, nous attendons, quand le TAS aura fait un retour, la fédération nous tiendra informés.
Merci, monsieur Allah.
Nous attendons le retour.
Merci beaucoup. Monsieur Mayassine Mar, tout est parti de la suspension controversée, on va dire, de la candidature de Didier Drogba, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, figure emblématique du football ivoirien, à la tête de la Fédération ivoirienne de foot. Compte tenu peut-être de votre connaissance, même si vous n'êtes pas directement impliqué dans ce dossier, et de ce que vous en savez, est-ce que vous comprenez l'attitude de la FIF? Est-ce que vous auriez fait pareil s'il s'agissait peut-être de la Fédération sénégalaise de football, même si vous n'êtes pas directement concerné?
Oui, ben, je vous remercie. Je pense que c'est une situation en fait que nous regardons, en tout cas que nous suivons depuis de loin. Et effectivement, chacun peut livrer son opinion là-dessus. Je voudrais clairement dire que la Fédération ivoirienne de football est une fédération effectivement standard de la FIFA, et que naturellement la Fédération ivoirienne de football peut effectivement s'opposer, normalement suivant des critères bien définis par le comité électoral, de la non-validité en tout cas de la candidature de Didier Drogba. Je pense que c'est de cette question dont il s'agit, c'est que la FIF, effectivement, n'a pas validé sa candidature, et je pense que Didier a effectivement saisi donc le TAS, je pense, par l'exemple de la FIFA, pour revendiquer effectivement sa légitimité à pouvoir participer effectivement à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Alors, moi, de ce que je sais, c'est que bon, le TAS, effectivement, est là effectivement pour tout le monde. Et les décisions du TAS, je pense que devraient normalement passer, à mon avis, à partir du moment où ils ne sont pas d'accord tous les deux, parce que la partie ivoirienne, qui est la fédération, et Didier Drogba, effectivement, ont saisi chacun le TAS, et que le TAS, effectivement, a donné une décision. Je pense sincèrement qu'il faut il faudrait peut-être se plier à la décision de mon avis. Voilà.
Mais est-ce que vous comprenez que la FIF ait décidé de saisir le TAS pour ces deux décisions?
Oui, mais c'est vrai que parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que peut-être qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à la décision de la FIFA d'homologuer effectivement la candidature.
Elle n'était pas d'accord pour la première décision de la FIFA qui a suspendu le processus électoral. Et après, la réaction de la FIFA était de mettre sous tutelle la FIF. Est-ce que il ne s'agit pas là d'un abus d'autorité et de position de la part de la FIFA? C'est ce que disent certains experts.
Oui, justement. C'est-à-dire que donc ça, c'est la première lecture que j'ai eue. La deuxième lecture, effectivement, c'est en fait cette ingérence, effectivement, de la FIFA, naturellement, sur les fédérations. Je pense que ça aussi, quand même, je pense que la FIFA, la Fédération internationale de football aurait dû, peut-être, de mon point de vue, s'en tenir à la décision de la FIFA, n'est-ce pas, suivant les critères établis par le comité électoral de la FIFA, pour invalider la candidature de Didier Drogba.
Merci.
Alors, je pense que quand même la FIFA devrait, à mon avis, peut-être s'en tenir à cette décision. Maintenant, comme on dit, la FIFA peut-être a peut-être est entrée dans la danse.
C'est légitime.
Parce que simplement, peut-être qu'elle a été également aussi peut-être interpellée.
Merci
peut-être
beaucoup. Merci beaucoup, Mayassine Mar. Hakim Djelouat, vous avez couvert plusieurs compétitions sportives internationales. Vous connaissez un peu, bien sûr, le fonctionnement des certaines fédérations et aussi de la FIFA. Quel est votre avis, brièvement, votre analyse de cette querelle qui oppose la FIF à la FIFA? Est-ce que vous parleriez aussi, comme on semble l'avoir entendu de M. Mar, d'une intrusion de la FIFA un peu trop forte au sein des fédérations africaines?
Alors, on peut Liliane, nous pouvons l'observer de ce point de vue-là, mais moi, je ne pense pas que ça soit une intrusion due au fruit du hasard, donc de la part de la FIFA, par rapport à ce dossier au sein de la FIF, puisque, rappelez-vous, je rappelle qu'il y a quelques années, le championnat de première division du Mali avait été arrêté pour une cause que nous ne connaissons pas encore, puisque nous avions invité sur le plateau de la radio africaine, d'Africa Radio, Mamoutou Touré, ancien président de la Fédération malienne de football. Et à ce moment-là, en fait, le championnat avait été à l'arrêt pendant presque 3 ans, Liliane. Et le problème qui se pose ici, je pense, et moi je me tourne surtout vers les autorités de la FIF, mais notamment aussi les clubs, les dirigeants de clubs, puisque pour le moment cette affaire prend en otage l'ensemble du corps footballistique ivoirien.
Ça a des conséquences sur le football en lui-même, le championnat et même les compétitions internationales.
Complètement. Là, il faut le rappeler que Liliane, la coupe de Côte d'Ivoire n'a pas encore repris, le championnat n'a pas encore repris, en raison justement par rapport à cette situation-là, notamment. Alors moi, je pense que l'intrusion de la FIFA est une raison que veut mettre en avant la FIF pour dire que ils n'ont pas à se mêler effectivement de cette affaire-là et de cette élection-là. Mais je pense à un moment donné, il faut s'asseoir autour d'une table. Il est important de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir justement décider et faire avancer le football ivoirien. Parce que pour le moment, le football ivoirien est à l'arrêt. Et c'est ça qu'il faut rappeler.
Est-ce qu'on pourrait dire que la FIFA est plus intrusive ou serait plus intrusive au niveau des fédérations africaines qu'ailleurs? En tout cas, vous allez répondre à cette question, Hakim, juste après cette courte pause.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous débattons de la crise qui oppose la Fédération ivoirienne de football à la FIFA. Et avec nos invités, François Yao Ala, directeur de cabinet du ministre ivoirien des sports à Abidjan, Mayassine Mar, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football, Joseph Antoine Bell, ancien gardien de but international camerounais qui est en Gambie, il nous a rejoint. Joseph Antoine Bell, bonsoir.
Bonsoir à tous.
On vous entendra dans un instant puisque nous avons commencé il y a quelques minutes l'émission. Et je rappelle que Franck Capi, ancien président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala au Cameroun, n'est pas avec nous, nous n'avons pas pu le joindre. Hakim Djelouat, journaliste sportif Africa Radio, est avec nous et nous tenons aussi à souligner que au niveau de la Fédération ivoirienne de football, eh bien, Sam Etiassé, qui en est le directeur exécutif, a décliné notre invitation, pendant que la FIFA n'a tout simplement pas donné suite à nos divers emails d'invitation. Hakim, avant d'écouter Joseph-Antoine Bell, je vous posais une question avant la pause. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a une plus forte intrusion de la FIFA au niveau des fédérations africaines de football, plus qu'ailleurs?
Je pense que... Alors, on a effectivement appris la suspension il y a quelques semaines du président de la Confédération africaine, Ahmad Ahmad, pour 5 ans, pour des soupçons de corruption. La FIFA n'est pas en reste, puisqu'on le rappelle, effectivement, avec notamment les affaires de corruption que Sepp Blatter avait soulevées. Gianni Infantino, avant d'arriver à la FIFA, au sein de cette instance dirigeante mondiale du football, avait dit, je cite, « Je souhaite effectivement remettre d'appoint la Fédération internationale de football et évacuer toutes ces formes de corruption ». Pour le moment, il n'y a pas réussi puisque Ahmad Ahmad donc a été suspendu pour corruption même pas après avoir terminé sa mandature. Et je rappelle Liliane qu'il y a pour le moment eu aussi une autre affaire en fait dans ce style-là, c'est au Mali, au sein de la Fédération malienne de football, où on s'était pas mis d'accord pour pouvoir justement élire un président.
Oui, allons-y rapidement.
Lancer ce championnat.
Hakim, mais justement, il y a d'autres fédérations hein, qui ont été mises sous tutelle. Vous évoquez le Mali, il y a eu un moment le Cameroun, il y a eu le Ghana et Madagascar. Mais est-ce que cette présence que certains jugent trop forte de la FIFA dans les fédérations africaines l'est aussi pour les fédérations d'Amérique latine ou asiatique ou européenne? C'était ça ma question.
Je pense qu'au sein des autres fédérations, pour le moment, Gianni Infantino se concentre beaucoup sur la partie occidentale, mais notamment celle de la zone Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu pas mal de dossiers de soupçons de corruption. Et c'est pourquoi, effectivement, le comité de normalisation a été installé au sein de cette fédération ivoirienne de football.
Merci beaucoup.
Maintenant, on attend effectivement... on a vu aussi Fatma Samoura intégrer la Confédération africaine de football, la secrétaire générale de la FIFA, qui a terminé sa mandature, mais qui avait travaillé pendant 6 mois pour pouvoir régler quelques petits soucis.
Merci beaucoup,
au sein de la Confédération africaine de football.
Merci beaucoup, Hakim. Alors, Joseph Antoine Bell, quand on écoute Hakim, on pourrait dire que, en fait, cette présence de la FIFA, en fait, vise à bien faire, à faire en sorte que le football africain puisse fonctionner dans des conditions plus transparentes. On me fait signe que Joseph Antoine Bell, on l'a perdu. France, est-ce que c'est votre avis, Mayassine Mar?
Oui, mais écoutez, moi je suis un peu d'accord avec Hakim sur un côté. Je pense que quand même, il faut que la FIFA également joue son rôle de régulateur. Je crois qu'aujourd'hui, si en Afrique, effectivement, il se pose plus de problèmes dans le continent africain, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de malversations, il y a beaucoup, effectivement, de tentatives de corruption. Et naturellement, vous avez cité beaucoup de cas de fédérations qui ont, effectivement, pour lesquelles la FIFA a été obligée de mettre en place donc un comité de normalisation. Alors, c'est le cas, je pense, que sur la candidature de Didier Drogba, peut-être que on ne comprendrait pas pourquoi, effectivement, le comité électoral n'aurait pas accepté sa candidature. Bon, il y a toutes ces raisons. Est-ce que, bon, on a vu tantôt dans certaines fédérations où, effectivement, on a voulu élaguer certains candidats parce que simplement ils gênaient ou bien parce que simplement...
Merci. C'est des... Voilà. Mais je souhaite qu'on ne focalise pas le débat puisque la candidature de Drogba, c'est vrai, c'est le déclencheur de la crise, mais la crise aujourd'hui a pris une autre tournure. Et j'aimerais bien entendre le ministre tout à l'heure sur peut-être ce que pense Didier Drogba lui-même de l'évolution de la crise. Joseph Antoine Bell, on vous a retrouvé. Vous m'entendez parfaitement?
Je vous entends parfaitement.
Ouais. Alors, vous êtes en Gambé et bien de choses dans votre village, Joseph Antoine Bell. Alors, dites-nous, en quelques mots, s'il vous plaît, est-ce que vous avez le sentiment que la FIFA joue son rôle pleinement en Afrique dans le but de rendre la gestion du football plus transparente, plus saine? Ou alors s'agit-il d'une intrusion que certains assimilent même parfois de la condescendance?
Oui, mais la condescendance ne va qu'à ceux qui se comportent comme des enfants. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient condescendants envers des forts. Si vous êtes faible, vous attirez la pitié chez ceux qui eux-mêmes ne sont pas suffisamment grands pour agir sans pitié.
Et si on quittait le ton un peu de proverbe pour être plus terre-à-terre, plus clair?
Oui, mais pour être terre à terre, ce qui arrive aux Africains, d'abord la faute du comportement des Africains. Donc, on ne peut pas se plaindre. J'ai entendu dire que c'est la crise ivoirienne vient de Didier Drogba. Non, il faut se souvenir que la fédération ivoirienne avait déjà de sérieux problèmes avant. Le président Sidi Diallo, paix à son âme, avait déjà des problèmes avant, avec des clubs qui n'étaient pas avec lui, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Les fédérations africaines ont beaucoup de problèmes qui ressemblent à la société africaine, pour pas qu'on se le cache. Donc,
quels sont ces problèmes pas, problèmes de transparence, mauvaise gestion, de refus d'application des textes qui poussent la FIFA à intervenir?
C'est exactement tout ça. C'est-à-dire que avant de désigner le coupable, je fais d'abord le constat, nous avons du mal à appliquer les règles. Nous avons du mal à appliquer les règles. Nous pensons toujours qu'on peut s'arranger. Voilà un peu notre état d'esprit. Et ça, c'est pas un état d'esprit purement football. Faut savoir que ce qui se passe dans le football et ce qui se passe dans la société, parce que ce sont des gens qui vivent dans la société, qui gèrent des affaires dans la société, qui se retrouvent à la tête du football aussi. Ce que vous faites dans la rue, sur la route avec votre voiture lorsque vous n'avez pas le permis et que vous vous arrangez, c'est ce que vous ferez lorsque vous allez diriger le foot.
Donc, de votre point de vue, Joseph-Antoine Bell, comme vous le dites de manière plus clairement et non par des paraboles, c'est que la FIFA agit dans les fédérations africaines parce qu'elle est obligée de le faire pour que les textes soient appliqués. Elle a raison d'intervenir.
D'abord, je vais vous rappeler une chose. Dans beaucoup de fédérations, c'est toujours quelqu'un de la fédération qui écrit à la FIFA. J'ai entendu tout à l'heure, j'espère que c'est vrai, qu'il y avait bien un ministre. Il faut que le ministre doit être au courant, car c'est souvent lorsque le ministre des Sports dans le pays veut donner des directives, avant que je ne dise qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, réglementaires ou pas réglementaires, ce sont les dirigeants fédéraux qui écrivent rapidement à la FIFA pour dire « venez chez nous ». Mais on le retrouve en politique où c'est nous, ce sont les Africains qui crient à l'intervention.
Dommage, on a perdu Joseph-Antoine Bell, mais on s'apprêtait justement à vous donner la parole, monsieur le ministre, le directeur du cabinet du ministre ivoirien des sports. Monsieur Yao Ala, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Vous avez entendu Joseph-Antoine Bell dire que c'est finalement la mauvaise gestion, les mauvaises pratiques au sein des fédérations qui poussent la FIFA à agir. Et parfois, ce sont les ministères même qui interviennent pour appeler la FIFA à agir.
Non, le ministère des Sports, en Côte d'Ivoire, le ministère des Sports n'est pas intervenu pour appeler la FIFA à agir. Comme je l'ai dit, chez nous, les champs sont bien séparés. Et c'est pour ça que quand vous m'avez demandé, je dis, pour le moment, nous attendons le retour des actions entreprises par le comité exécutif de la FIFA. Nous avons donné pouvoir à la FIFA pour gérer ce plan d'activité. Et donc, juste à ce qu'il y ait des changements ou d'autres dispositions, nous nous adressons au comité exécutif. Il y a eu un certain nombre un processus qui a été mis en place. Le processus a été interrompu et nous avons été informés que la FIFA a pris la décision de suspendre. Donc, nous n'avons pas été consultés au moment où la FIFA prenait la décision.
D'accord.
Donc, nous, on attendait que les raisons soient connues. Il y a eu les différentes interrogations des acteurs. Nous, on attendait toujours le retour. Nous étions impatients que les activités reprennent.
Mais justement, parlant des activités, je voulais vous demander quelles sont les conséquences de cette situation aujourd'hui sur le football ivoirien. Hakim parlait du championnat qui n'a pas repris. Mais avant de répondre à cette question, rapidement, monsieur le directeur de cabinet, je voudrais savoir qu'est-ce que Didier Drogba lui-même pense de l'évolution de la situation, de la tournure que prennent les événements aujourd'hui à la FIFA.
Vous me mettez dans l'embarras puisque ce que pense Didier
Drogba. Peut-être que vous lui avez parlé.
Ça n'engage que lui et son équipe. La candidature de Didier Drogba, le ministère n'est pas impliqué dans la gestion de la candidature de Didier Drogba.
Très bien. Et sur les conséquences.
Il s'agit pour la FIFA d'appliquer les règles qu'elle s'est données en tant que fédération.
Et ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas.
Au regard de la fêtière, des dispositions, parce que les fédérations nationales sont reliées aux fédérations internationales en s'affiliant. Il y a des directives qui leur sont données par les fédérations internationales.
Donc, à vous entendant, vous êtes en train de nous dire que la FIFA, en invalidant en août dernier la candidature de Drogba, n'a pas respecté les textes ?
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des textes au niveau de la FIF que la FIF applique.
Et c'est qui ont été respectés.
Ces textes, qu'il y a eu un blocage. Et le blocage a été suscité par l'intervention de la FIFA qui a suspendu.
Merci. Donc, et sur nous, les conséquences, s'il vous plaît.
Pour nous, la suspension, si la FIFA suspend, c'est parce qu'elle considère que certains des points de ses statuts et règlements n'ont pas été respectés.
Merci.
Il revient donc à la fédération d'examiner ces points avec la FEPIER pour justifier le respect ou le non-respect de ces dispositions-là.
En deux mots, les conséquences sur le foot, s'il vous plaît, monsieur le directeur de cabinet, on n'a plus le temps, s'il vous plaît.
Oui.
Les conséquences de cette situation sur le foot ivoirien.
Nous, habituellement, à pareil moment, les championnats se jouent. Le championnat a arrêté. Et justement, nous, dans nos relations avec la fédération, c'est comment voir ces activités reprendre. Ce que nous savons, c'est que nous avons des équipes qui sont engagées aux compétitions internationales, elles jouent. Nous avons des petits tournois qui se déroulent, mais qui ne remplacent pas un championnat. Et nous avons des enjeux importants. Et notre souci, c'est qu'on puisse retrouver la norme le plus tôt possible pour que les activités du football reprennent dans notre pays. Voilà, ça c'est notre préoccupation. Reste, les liens entre la FIF et la FETIER, ça je crois que les statuts et les règlements des uns et des autres permettront de régler. Et le mouvement sportif a organisé. Quand deux structures ne s'entendent pas, on se retrouve devant l'État. Merci. Je crois que c'est ce que la FIF a fait et l'État se tranchera.
Merci beaucoup.
Merci, madame.
Restez avec nous, monsieur Allah. Monsieur Mar, quelle est la marge de manœuvre du tribunal arbitral? Est-ce que le TAS a la marge de manœuvre? Est-il suffisamment indépendant pour exercer, pour arbitrer cette crise et donner en toute indépendance son arbitrage?
Mais tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est pas la première fois que le TAS intervient, en tout cas sur des décisions, en tout cas qui sont prises à partie par certaines parties. Je pense que c'est important de le comprendre, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut qu'on accepte des choses. Le monde est régulé. Aujourd'hui, quand un club, n'est-ce pas, a des difficultés avec d'autres clubs, mais c'est la fédération qui intervient. Naturellement, également, quand il y a des problèmes au niveau de la fédération, jusqu'à pouvoir bloquer effectivement le fonctionnement de la fédération, la CAF et la FIFA sont obligés également d'intervenir pour apporter des solutions. Maintenant, comme on dit, très souvent, on parle de forte ingérence de la FIFA, si naturellement, effectivement, ça n'arrange pas ces dirigeants. Mais souvent également aussi, les fédérations font appel à la FIFA quand il y a des difficultés, n'est-ce pas, de gestion entre l'État même et la fédération. Donc, je pense qu'il faut comprendre une chose. Les bons élèves, je pense que n'ont pas eu de problème. Mais les mauvais élèves, naturellement, ont souvent des problèmes. Et il faut le dire, la FIFA également est obligée de sévir et obligée également aussi de faire respecter la loi, n'est-ce pas, de toutes les règles de fonctionnement, de bon fonctionnement. Et de ce point de vue, moi, je partage parfaitement que quand même, il faut quand même qu'un œil qui regarde le fonctionnement de toutes les associations. Sinon, en fait, chacun fera exactement ce qu'il a envie de faire.
Merci beaucoup. On va marquer une dernière pause, messieurs, et on se retrouvera pour conclure ce débat sur le bras de fer entre la Fédération ivoirienne de football et la FIFA dans ce grand rendez-vous sur Africa Radio. Le grand rendez-vous.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous allons retrouver à nouveau nos invités qui ont patienté pendant la pause pour parler de cette crise qui oppose la FIFA et la Fédération ivoirienne de football. Et nos invités sont Maya Sinmar, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football, François Yao Ala, directeur de cabinet du ministre ivoirien des sports, notre collègue Hakim Djelouat, journaliste sportif à Africa Radio et présentateur de l'émission Tout Feu, Tout Foot. Et nous avons le plaisir de retrouver Joseph Antoine Bell, que nous avons perdu un moment. Joseph Antoine Bell, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, on écoutait M. Mar tout à l'heure dire que les bons élèves n'ont pas besoin de la FIFA, ce sont les mauvais élèves qui ont besoin de... voient arriver la FIFA. Mais le Cameroun a connu justement le comité de normalisation, on parlait tout à l'heure du Mali et bien d'autres pays. Mais quel est le bilan qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce que pour autant, cela a été bénéfique pour le football camerounais?
Liliane, le Cameroun n'a pas connu un comité de normalisation
pense qu'il en a connu 5 déjà dans sa vie. Quand un comité de normalisation est prorogé, c'est un nouveau comité. Donc, logiquement, quand on parle de bons élèves, les bons élèves rendent leur copie à temps. Donc, quand on vous donne 8 mois pour régler un problème, si vous ne le réglez pas en 8 mois, c'est déjà un signe de quelque chose. Parce que quand vous aviez fait l'évaluation, vous n'étiez pas moins compétent. Donc, si vous avez dit 8 mois, il n'y a pas de raison qu'après ça se trouve à 16, à 23 mois et tout ça. Bon, donc bref, pour revenir au problème lui-même, il faudrait que les Africains, nous sachions très bien que personne ne construira l'Afrique à notre place. Donc, quand on appelle la FIFA et qu'elle est obligée de venir intervenir, elle ne fera jamais les choses à notre place.
Oui, mais quand la FIFA décide d'envoyer et de nommer des comités de normalisation et de mettre les fédérations sous tutelle, l'objectif, quand j'ai entendu des experts, que vous êtes tous, c'est que le football en sorte gagnant, que la gestion soit plus transparente et que le football y gagne. Mais si, au final, on se rend compte que la situation ne s'améliore pas, à quoi servent donc ces mises sous tutelle ?
Mais Liliane, vous voulez qu'on ne fasse rien ? Je suis en train de vous dire que tout le monde dans un pays doit se sentir concerné. Quand on met des gens à la tête d'un comité de normalisation qui n'ont pas le sens de la réussite, qui ne savent pas que lorsqu'on vous donne un devoir en 2 heures, le faire en 2 heures est une première réussite. Le faire bien en 2 heures, c'est ça la réussite. Donc, on ne viendra pas vous donner des Suisses, des Américains ou je sais pas moi, des Bangladeshis pour venir régler les problèmes de chez vous. On vous dit la fédération la met sous tutelle, mais en attendant le comité de normalisation, ce seront des nationaux. Donc, il faut que tous ceux qui prennent la tête des comités de normalisation se rendent bien compte d'une chose, c'est que leur échec prouve que l'ensemble du pays est incompétent. On n'arrive pas à trouver des gens dans un pays pour gérer le foot. Donc, ça, c'est grave, ça.
Merci beaucoup.
Voilà.
Hakim Djelouat, en quelques mots, quand on écoute Joseph Antoine Bell, voilà, on peut arriver aussi à la conclusion que la fin de ce que certains appellent l'intrusion ou de l'intervention de la FIFA n'est pas pour demain au niveau des fédérations africaines.
Alors, après avoir participé au séminaire du développement du football africain en présence de la FIFA et de la Confédération africaine de football, et notamment la cinquantaine de fédérations l'année dernière, Liliane, je discutais avec quelques présidents de fédérations africaines. Lorsqu'ils ont vu arriver Gianni Infantino, justement pour parler de révolution du football africain, je pense que Joseph a raison dans ce qu'il dit, en partie, par rapport au fait que, à un moment donné, ce sont les fédérations qui doivent prendre en main effectivement leur avenir pour le bien des générations qui vont arriver et des générations qui sont déjà présentes pour les plus petits, car c'est eux qui vont faire le football de demain. Et je pense que l'Afrique regorge de talents, regorge de personnalités aussi qui peuvent aider pour le football africain, mais surtout de dirigeants, de bénévoles, d'entraîneurs, d'éducateurs, que ce soit au niveau féminin, au niveau masculin. Je pense que le football africain a de l'avenir.
Merci.
On l'a vu par le passé, notamment dans la plus grande compétition de football qu'est la Coupe du Monde.
Merci beaucoup, Hakim. Massine Mar, si l'Afrique pouvait se passer de la FIFA, ce serait, disons, mieux pour l'image aussi de nos fédérations.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que personne ne souhaiterait effectivement qu'on gouverne à sa place. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que la FIFA quand même a donné, en tout cas, aux fédérations la latitude effectivement d'adapter les règles effectivement de fonctionnement au niveau donc de leur pays. Alors aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que naturellement certaines fédérations ont des difficultés à pouvoir effectivement se développer. Alors aujourd'hui, parce que la FIFA n'a pas les mains croisées, aujourd'hui la FIFA intervient, n'est-ce pas, en termes de subventions, en termes de projets, et apporte beaucoup de soutien aux pays, aux associations nationales.
Et par conséquent, le droit de regard sur la gestion.
Non, c'est pas forcément. Oui, bien sûr, parce que la FIFA quand même ne donne pas son argent et ensuite elle vous laisse faire ce que vous voulez. Non. je pense qu'il y a, il y a certaines règles à respecter.
Merci.
N'est-ce pas? C'est important. Je pense que donc, de ce point de vue, les fédérations africaines, comme l'a dit Hakim, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge de talents. Et aujourd'hui, je suis sûr que les pays, les fédérations qui veulent travailler sont en train de le faire bien parce que quand même, ils ont l'appui de la FIFA parce que on a beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'argent qui entre dans le football africain. Il faut bien le gérer par contre.
Merci beaucoup, Monsieur Marre. On termine avec vous en 30 secondes, Monsieur Yaouala. Comment se passer aujourd'hui de la FIFA ou tout au moins faire en sorte qu'on n'assiste plus à ces décisions de mise sous tutelle qui infantilisent parfois un peu les fédérations et leurs responsables?
Oui, c'est notre souhait à tous que la mise sous tutelle ne se répète plus dans nos pays. Et j'ai écouté tout à l'heure Joseph-Antoine Bell qui connaît bien la Côte d'Ivoire. J'ai écouté son intervention et je crois que ce sont des choses qu'il faut retenir. La meilleure, si quelqu'un d'autorité te reproche quelque chose, il faut d'abord regarder ce qu'on te reproche, examiner, voir ce qui peut être corrigé. Donc nous allons regarder tout ça, accompagner la fédération dans des mesures qui vont être prises en fonction du résultat qu'ils auront des matchs qu'ils ont entrepris.
Merci.
S'il y a des choses à corriger, le ministère se tient aux côtés de la fédération pour corriger cela. Parce que ce que nous attendons, c'est que le football ivoirien puisse reprendre.
Merci.
Et faire en sorte que les associations soient gérées le mieux possible.
Merci beaucoup. On n'aura pas l'occasion de donner le mot de conclusion à Joseph-Antoine Bell. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce débat. François Yao, la directeur du cabinet du ministre ivoirien des Sports. Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but international camerounais. Hakim Djelouad, journaliste sportif à Africa Radio. Et François Mayassine Marre, pardon, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football. Merci d'avoir suivi cette autre édition de Grand Rendez-vous. Merci à vous de nous avoir écoutez, à demain.